entamer un nouveau chapitre de la doctrine, chapitre très important. Remarquez, tous les chapitres de doctrine sont importants parce que la doctrine, comme on l'a dit, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'Église. Si on s'en tient uniquement à la doctrine, c'est desséchant, mais sans doctrine, n'est-ce pas, il n'y a rien. Hein. Il faut que nous ayons une doctrine saine. Un peu, c'est comme la charpente, c'est comme la colonne vertébrale du corps humain. Bien entendu, c'est pas tout le corps humain, mais c'en est une composante essentielle. Et ce soir, donc, nous allons attaquer un nouveau point extrêmement important qui porte un nom un peu barbare, l'herméneutique. Alors, ne vous affolez pas, ça veut tout simplement dire, n'est-ce pas, ça vient d'un verbe grec, herméneo, qui signifie expliquer, interpréter. L'herméneutique, c'est la science qui permet d'interpréter l'écriture. L'écriture est infaillible, mais nos interprétations ne le sont pas. Et c'est pourquoi il nous faut être extrêmement soigneux dans nos interprétations de l'écriture. Donc, le mot signifie interpréter, expliquer. C'est un mot qui vient d'Hermès en grec, qui était le messager des dieux, n'est-ce pas ? Qui interprétait pour les humains la volonté des dieux. C'est de là que vient le mot herméneo. Un autre sens du verbe herméneo, c'est aussi traduire. Et nous aurons justement tout un chapitre sur la traduction. On trouve ce mot employé à plusieurs reprises dans différents textes de l'Écriture, n'est-ce pas ? Dans le sens justement soit d'interpréter, d'expliquer ou même de traduire. Par exemple, Jean 1, verset 38, hein, ce qui signifie, souvent on trouve cette expression dans Jean, c'est pas, où il citait un terme hébreu ou araméen, et l'évangéliste le traduit pour ses lecteurs, ce qui signifie telle et telle chose. Hein, par exemple, nous avons trouvé le Messie, hein, Jean 1, verset 42, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, n'est-ce pas, pour les lecteurs grecs. On trouve cette expression aussi dans Jean 9, verset 7, etc. Enfin, il y a de nombreux textes. Un autre passage d'écriture où ce terme apparaît, c'est dans le texte de Luc 24, verset 27, où Jésus apparaît ressuscité aux pèlerins d'Emmaüs et leur explique dans toutes les écritures ce qui le concernait. N'est-ce pas ? Nous retrouvons ce mot herméneo, n'est-ce pas ? Le Seigneur leur explique ce qui le concernait. Donc, si vous voulez, la science herméneutique signifie les principes de l'interprétation biblique. Et on ne peut pas interpréter la Bible n'importe comment. Les grandes hérésies, n'est-ce pas, viennent de ce que précisément on ne respecte pas les règles de l'herméneutique. Et chacun interprète l'écriture un petit peu d'une manière fantaisiste, souvent des problèmes doctrinaux, des problèmes d'hérésie naissent précisément parce qu'on n'a pas soigneusement respecté les règles de l'herméneutique. Maintenant, il y a une autre science qui est proche de la science herméneutique, qui est l'exégèse. Quelle différence y a-t-il entre l'exégèse et l'herméneutique ? Bon, la différence est ténue, en fin de compte. Hein. Ce sont deux mots qui sont presque synonymes. En fin de compte, l'exégèse aussi, c'est une explication. L'exégèse consiste à essayer de percer, de cerner, de discerner le sens d'un texte, d'un passage. Et l'herméneutique, c'est l'application de l'exégèse, si vous le voulez, à la parole de Dieu. L'exégèse, c'est une méthode d'étude de la Bible. Et en fin de compte, on peut dire que l'exégèse, c'est la substance même de l'herméneutique. Bon, on ne saurait trop souligner l'importance de l'herméneutique. Bon, la Bible, comme j'ai dit tout à l'heure, est certes le livre des choses de la foi. Et toute notre foi doit être selon les Écritures, comme la Bible le dit elle-même. La Bible, c'est ce livre qui rend témoignage des événements, comme disent les théologiens, salvifiques, ça veut dire des événements qui ont une portée par rapport à notre salut, qui concerne notre salut. Et 2 Timothée 3, verset 15, le texte bien connu, n'est-ce pas, rappelle que connaître les Écritures, est une garantie de salut personnel. Connaître les Écritures, comprendre les Écritures, nous conduit au salut. Tu connais les saintes lettres, dira l'apôtre Paul à Timothée, qui peuvent te rendre sage à salut. Par conséquent, chercher dans le livre, dans la Bible, à découvrir la volonté de Dieu, et puis ensuite chercher comment prêcher, témoigner de cette parole de Dieu, de cette volonté de Dieu, c'est tout le projet de l'herméneutique. Maintenant, l'herméneutique n'est pas une science de solitaire. C'est une science qui a une dimension communautaire. On ne lit pas la Bible seule. Ça, c'est le principe de base. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Seigneur, une des raisons du moins pour lesquelles le Seigneur a établi l'Église. Lire la Bible seule, comme d'ailleurs nous le rappelait un certain nombre de moines que nous avons rencontrés ces derniers temps, c'est une garantie certaine de se tromper. Il faut que cette vérité que nous découvrons individuellement, certes, dans l'Écriture, soit confrontée avec d'autres. Il y a une confrontation permanente qui fait que la Bible s'interprète dans le cadre de l'Église tout entière. Il s'agit d'une confrontation. Maintenant, quel est le but? Le but, c'est de comprendre ce que la Bible a voulu dire, ce que l'auteur sacré a voulu dire. Avant d'établir une doctrine, avant de dégager une vérité, de dégager une conduite à tenir, il faut que nous soyons certains que nous avons bien compris ce que la Bible veut dire. Et s'il y a parfois des différences d'interprétation, des différences de doctrine, par exemple d'une église à l'autre, très souvent, si on remonte aux origines, on se rendra compte que la raison en est que, à un moment ou à un autre, on n'a pas bien saisi ce que la Bible voulait dire, et que l'on a plaqué sur la Bible des opinions préconçues, des doctrines que l'on avait élaborées au préalable et dont on a cherché une justification dans la Bible. Exemple éloquent, l'histoire de la papauté. La papauté est une réalité qui est le produit d'une évolution historique. C'est au haut Moyen-Âge que la papauté a commencé à se dégager, et au bas Moyen-Âge qu'elle a atteint son apogée. À partir du moment où ce phénomène historique, n'est-ce pas, s'est développé, il a fallu essayer de justifier cette institution à partir de textes bibliques. Et alors, n'est-ce pas, on a cherché dans la Bible des textes qui pouvaient appuyer ce qui était le fruit d'une évolution historique. Et alors on s'est tourné vers le fameux texte où Jésus dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Bon, manifestement, il est clair que lorsque Jésus a dit cette parole et que Matthieu l'a rapporté dans son évangile, jamais il n'avait eu la moindre idée, n'est-ce pas, de la papauté. Ce n'est pas du tout la papauté qu'il visait. Mais, n'est-ce pas, on a plaqué une idée préconçue. On a plaqué une doctrine, n'est-ce pas, qui avait été élaborée en dehors de la Bible, et on l'a plaqué sur ce texte-là parce qu'on avait besoin justement d'une justification biblique. Ça, c'est une mauvaise herméneutique. C'est l'exemple même, n'est-ce pas, de ce qu'il ne faut pas faire en herméneutique. La démarche doit être inverse. Nous ne devons pas partir d'une réalité et chercher à la justifier à travers d'un texte de l'Écriture. Nous ne devons pas partir d'une doctrine, n'est-ce pas, qui a été élaborée par des théologiens, par exemple, et puis ensuite essayer de la justifier par la Bible. Mais nous devons faire l'inverse. Nous devons partir de la Bible et dire, qu'est-ce que la Bible a voulu dire? Qu'est-ce que l'auteur sacré a voulu dire? Est-ce que je suis bien certain, est-ce que nous sommes bien certains d'avoir compris ce que la Bible veut dire? Et à partir de là, on élabore une doctrine. Et à partir de là, on détermine une ligne de conduite, mais pas l'inverse. Autre exemple dans les milieux évangéliques cette fois-ci, l'idée, n'est-ce pas, que le temps des miracles est passé. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on constatait avant le réveil de Pentecôte, au début du siècle, que les miracles décrits dans l'Écriture ne se trouvaient plus dans l'Église d'aujourd'hui. Alors, plutôt que de se mettre en question, dire bien c'est pas normal parce que l'Écriture rend témoignage à la réalité du miracle dans la vie quotidienne de l'Église, on a fait la démarche inverse. On a dit puisque il n'y a plus de miracle aujourd'hui, alors il faut justifier ça. Au lieu de justifier la Bible en disant bien c'est nous qui devrions rechercher le miracle. Non, on a pris la démarche inverse. Or, le réveil de Pentecôte, lui, a pris la bonne herméneutique. Le réveil de Pentecôte a dit, eh bien, il y a une réalité que la Bible appelle le baptême dans le Saint-Esprit qui a disparu dans l'Église moderne. Or, la Bible en rend témoignage. Donc, logiquement, nous devrions pouvoir retrouver cette expérience-là. Et ça a été le démarrage du mouvement de Pentecôte. Voyez-vous, à la fois ce qui est une herméneutique erronée et une herméneutique juste. Alors maintenant, quand nous avons dit cela, essayez de bien comprendre ce que le texte veut dire et revenir au texte, même si par après il faudrait interpréter le texte. Prenons un autre exemple, celui de la première aux Corinthiens, où Paul s'étend longuement sur le problème des viandes sacrifiées aux idoles. Bon. Eh bien, c'est un problème que nous n'avons plus aujourd'hui. Dans nos pays occidentaux, en tout cas, nous n'avons pas à nous préoccuper de viande sacrifiée aux idoles pour la bonne raison qu'il n'y a plus de viande aujourd'hui, il n'y a plus d'animaux qui sont sacrifiés à des idoles. Ce qui était un réel problème pour les Corinthiens et pour les chrétiens du 1er siècle n'est plus un problème pour nous. Mais est-ce à dire que nous n'avons pas, nous, aujourd'hui, des problèmes voisins? Alors, il nous faut partir de ce texte. Mais qu'est-ce que Paul veut dire? Quelle était la situation exacte? Quel était le problème qui se posait à ces premiers chrétiens par rapport à ces viandes sacrifiées aux idoles? Et puis à partir de là, nous pouvons faire des applications à notre temps. Par exemple, à des problèmes qu'on a des problèmes de la télévision, qui, toute proportion gardée, si vous voulez, répondent aux mêmes critères. Alors voyez-vous, à partir d'un problème qui semble dépassé, nous faisons une actualisation. Nous faisons une interprétation moderne, dans notre contexte à nous, d'une réalité qui est ancienne. Mais, n'est-ce pas, une réalité qui a besoin pour nous d'être cernée d'abord. Il faut que nous soyons très sérieux pour bien comprendre quel était le problème des Corinthiens, pour qu'ensuite nous puissions faire l'application à notre temps. Bon, autre dernier exemple, n'est-ce pas? L'exemple classique, alors cette fois-ci, du problème de Luther, problème de justification par la foi. Comment, n'est-ce pas, l'homme peut-il être agréable à Dieu? C'était tout le problème de Luther. Et ce n'était pas seulement le problème de Luther, c'était le problème de la chrétienté du XVIe siècle. Petit à petit, n'est-ce pas, la figure du Christ avait été repoussée, n'est-ce pas, comme une sorte d'épouvantail. Il suffit de voir, par exemple, les frontons des cathédrales gothiques ou autres, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le Christ Pantocrator, le Christ Tout-Puissant, n'est-ce pas, au centre du tableau, n'est-ce pas, avec les anges qui sont de chaque côté, les saints, etc., et puis les pécheurs qui sont là tout tremblants en bas. Et le Christ était perçu comme un juge terrible, terrifiant, n'est-ce pas, face auquel l'individu était complètement sans aucune ressource. Alors, à cause de ça, on multipliait les intermédiaires, les saints, la Vierge, qui étaient des intercesseurs, qui permettaient d'arriver jusqu'au Christ et de fléchir la colère de ce Christ courroucé, irrité, quoi. Alors, c'est tout le problème de la chrétienté du XVIe siècle. Comment être agréable à Dieu? Et Luther trouve la réponse dans l'Épître aux Romains. Et depuis cette époque-là, depuis l'époque de Luther, n'est-ce pas, l'Épître aux Romains est considérée par tous les théologiens pratiquement confondus, qu'ils soient catholiques ou protestants d'ailleurs, comme étant centrée sur le problème de la justification par la foi. Ou justification par la foi, ou justification par les œuvres. C'est, dit-on, dans les milieux théologiques, n'est-ce pas, le thème central de l'Épître aux Romains. la clé de la compréhension de l'Épître aux Romains, c'est le problème qu'a soulevé Luther sur la justification par la foi. En fait, quand nous regardons l'Épître aux Romains, avec un œil dépourvu, si vous voulez, de cette espèce de conscience collective, n'est-ce pas, qui nous est venue du passé, eh bien, la clé de l'Épître aux Romains n'est pas celle-là. Même si le problème de la justification par la foi est bien traité dans l'Église, dans l'Épître aux Romains, mais c'est pas le thème numéro un. Voyez-vous, on a une approche ici qui est faussée parce que il y avait un problème qui se posait au XVIe siècle, comment être agréable à Dieu, mais qui ne se posait pas du tout dans ces termes pour Paul, ni pour les Juifs du premier siècle. Et quel était le problème auquel Paul répond dans l'Épître aux Romains d'abord? Eh bien, c'est celui-là. Comment les païens peuvent-ils être associés au salut tout en étant païens et sans devenir juifs? Voilà le problème. Voilà le problème de l'Épître aux Romains. Et à partir de ce problème-là, ce problème qui se pose, eh bien, Paul parle effectivement de la justification par la foi. Mais ce n'est pas son sujet premier, ce n'est pas son problème. Et voyez-vous, nous pouvons faire une erreur d'herméneutique qui n'est pas grave dans ce cas-là, si ce n'est, si, elle a d'autres conséquences dans les relations entre juifs et non-juifs jusqu'à aujourd'hui. Mais, si vous voulez, on peut faire un problème d'interprétation, fausser une interprétation en plaquant un problème qui est le nôtre, mais qui n'était pas celui des auteurs qui ont écrit les livres de la Bible. Et ne pas se rendre compte qu'eux, ils avaient d'autres questions et d'autres problèmes. Alors, encore une fois, ça n'enlève rien à la doctrine de la justification par la foi telle que Luther l'a élaborée. Ça n'enlève strictement rien. Seulement, encore une fois, ça a d'autres conséquences. Et ces conséquences-là, c'est l'antisémitisme chrétien. Et l'Épître aux Romains n'a pas encore livré tous ses secrets sur le plan herméneutique. Il faut aujourd'hui une réévaluation de l'Épître aux Romains pour... Et c'est urgent, c'est très urgent dans le contexte actuel, justement, au moment de la résurrection de l'État d'Israël, pour que, justement, les rapports entre juifs et chrétiens, eh bien, redeviennent ce qu'ils devraient être, ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être, ce contre quoi Paul nous avait mis en garde dans les chapitres 9, 10 et 11, justement, des Épîtres aux Romains qui en sont le centre, savoir, attention, toi, branche sauvage de l'olivier qui a été greffée sur l'olivier naturel, ne te glorifie pas au sujet des branches naturelles qui sont tombées, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné son peuple, il ne t'épargnera pas non plus. Et c'est extraordinaire de voir que Paul a eu une préscience incroyable de cet orgueil dans lequel les païens non-juifs, n'est-ce pas, allaient tomber par rapport au peuple d'Israël. Et Paul dit, mais ne les méprisez pas. C'est justement ce qu'on a fait. Parce qu'on n'a pas compris la problématique. Voyez-vous ? Alors, ceci nous montre tout de suite combien comprendre l'Écriture n'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose qui va de soi. C'est pas quelque chose qui va de soi d'abord parce que c'est un vieux livre. Et il y a, bien sûr, on dira avec raison que l'homme du XXe siècle est le même que l'homme du premier siècle. Je dirais oui et non. Fondamentalement, oui. Dans sa culture, dans ses mœurs, non. On pourrait dire qu'il est presque pareil, mais il n'est pas tout à fait pareil. Nous n'avons pas les mêmes coutumes, nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas la même mentalité, nous n'avons pas la même manière de raisonner, la même manière de penser, ne serait-ce que précisément parce que nous n'avons pas les mêmes problèmes. Pourquoi aucun exégète, jusqu'à quelques exégètes modernes qui commencent à s'en rendre compte, pourquoi aucun exégète n'a vu que ce qu'était justement le problème qui se posait à Paul dans l'Épître aux Romains? Parce que dans l'Église moderne, aujourd'hui, nous n'avons plus de problème pratiquement de rapport entre chrétiens et païens, entre juifs et païens, parce que dans l'Église, il n'y a pratiquement plus de juifs. C'est aussi simple que ça. Le problème ne se pose plus. Plus de problème, donc automatiquement plus de questions. Or, voici justement que maintenant on recommence à avoir ces problèmes-là, parce qu'il y a un mouvement messianique qui renaît, qu'il y a des juifs qui se tournent vers Jésus, qu'il y a des juifs qu'on rencontre, etc., il y a l'État d'Israël. Bon, eh bien aussitôt, on se met à redécouvrir le problème, vous voyez. Mais les circonstances ayant changé, le problème n'est plus le même. Alors, il faut faire tout un effort, si vous voulez, culturel, pour nous replacer dans le contexte dans lequel étaient ceux qui ont écrit. Car ils avaient des questions. Quand nous lisons, par exemple, un livre comme les Épîtres aux Corinthiens, c'est très clair. J'ai parlé tout à l'heure des viandes sacrifiées aux idoles. Bon, c'était des problèmes concrets, réels, qu'avaient les chrétiens de cette époque-là. Les problèmes de remariage, de divorce et de choses comme ça, qui sont aussi les nôtres aujourd'hui, c'était des problèmes réels auxquels les Corinthiens étaient confrontés. Et ils demandent à Paul, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, hein? Les problèmes des procès qu'ils avaient les uns contre les autres, c'était des problèmes réels. Alors, automatiquement, sous peine, n'est-ce pas, de faire une erreur d'interprétation, il faut que nous comprenions ça. Par exemple, comme nous disons l'Épître aux Galates, qui est aussi considéré par la chrétienté occidentale comme une épître anti-légaliste. Eh bien, si on ignore, n'est-ce pas, que les Galates étaient travaillés par des courants gnostiques, c'est-à-dire des courants juifs ésotériques, eh bien, on va passer à côté d'une grande partie de ce que l'Épître aux Galates veut nous dire. Et on va faire une erreur d'interprétation en la considérant comme une épître anti-légaliste, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle n'a jamais voulu être, car Paul n'a jamais été anti-légaliste, il respecte lui-même la Torah. Voyez-vous ? Alors, c'est un vieux livre. Et par conséquent, là, il faut être très prudent. Et se garder, n'est-ce pas, de plaquer nos problèmes sur le texte lui-même, nos questions sur le texte lui-même, en faisant abstraction de 2000 ans d'histoire. Et c'est typique, par exemple, des milieux évangéliques pentecôtistes en particulier, n'est-ce pas, qui ne prennent pas ce recul dans l'interprétation des textes. Et qui, ce faisant, n'est-ce pas, eh bien, actualisent aujourd'hui des questions qui demanderaient à être extrêmement nuancées, parce qu'elles ne se présentent plus tout à fait dans les mêmes termes. Deuxièmement, c'est un livre difficile, dont l'interprétation est difficile, parce que c'est un livre écrit en Orient et nous sommes des Occidentaux, marqués par toute une culture, par toute une civilisation occidentale. Et comme le disait Rabbi Simcha il y a bien longtemps à Yvon Charles et à Pasteur Le Cossec, n'est-ce pas ? Eh bien, vous avez occidentalisé le Messie. Et ça, c'est un problème énorme. J'en ai entendu une bien belle aujourd'hui, une bien bonne, ça m'a assis un peu, n'est-ce pas ? Dans certains milieux pentecôtistes, on dit que Jésus, n'est-ce pas, a été juif jusqu'au moment où il a commencé son ministère, où quelqu'un il a cessé d'être juif, il a commencé à être chrétien. Voilà. Voilà, ça c'est typique. Ça c'est typique, n'est-ce pas, d'une herméneutique complètement tordue. Jésus n'était pas chrétien. Ça n'existait pas, les chrétiens de son temps. Il était juif, tout simplement. Jésus n'a jamais été le fondateur de la religion chrétienne. Paul n'a jamais été le fondateur de la religion chrétienne. Voilà des lieux communs, n'est-ce pas, qui courent, par exemple, dans les milieux chrétiens de toute obédience, parce qu'il y a une histoire de 2000 ans, parce que à la fin du 1er siècle, ce qu'on appelle le christianisme, l'évangile de Jésus-Christ, est devenu christianisme et s'est séparé du judaïsme. Mais d'abord, pendant un siècle, ce n'était pas le cas. Donc, pendant toute l'époque de Jésus et des apôtres, ce n'était pas le cas. Et puis, deuxièmement, on peut se poser la question, était-ce la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi? Il y a des processus historiques qui sont considérés comme allant de soi et qui ne le vont pas obligatoirement. Et quand on voit les polémiques, n'est-ce pas, entre ce qu'on appelle dans l'Écriture les chrétiens et les juifs, mais c'est une... C'est pareil, c'est une erreur herméneutique. Les controverses, c'était entre des juifs qui croyaient en Jésus et des juifs qui ne croyaient pas, mais ils étaient juifs, les uns comme les autres. N'est-ce pas ? Et ce n'était pas une polémique entre juifs et non-juifs, c'était une polémique des juifs entre eux. Et ça change tout, dans notre interprétation justement du Nouveau Testament. Ça change tout. Alors, voyez-vous, il y a une occidentalisation de la foi. Et alors, ça aboutit au Christ arien d'Hitler, n'est-ce pas ? Le blond aux yeux bleus, qui était né en Inde et qui était venu s'installer en Israël, etc. Enfin, toute une légende. Hein? Parce qu'il y a cette occidentalisation de la foi. Troisièmement, livre difficile parce qu'il est écrit dans des langues anciennes. Et parfois, il y a des erreurs d'interprétation qui viennent justement de ce que on ne recourt pas aux originaux. Il y a des erreurs d'interprétation, par exemple, en mariologie. Dans la traduction latine, nous aurons l'occasion de voir ça, de Jérôme, du texte du proto-évangile, n'est-ce pas, de Genèse 3, quand le Seigneur dit à la femme, donc ta postérité écrasera la tête du serpent et le serpent lui blessera le talon. Bon, il y a dans le texte original, c'est très clair, la postérité, c'est pas la femme, n'est-ce pas ? Mais Jérôme a traduit de telle manière, a fait une erreur de traduction telle qu'on peut comprendre que c'est la femme qui écrase, qui écrase la tête du serpent dans la version latine. Et comme la version latine de Jérôme a été la Bible de l'Occident pendant tout le Moyen-Âge, eh bien automatiquement, à partir de là, on a développé toute une théologie mariale qui manifestement est basée sur une erreur de traduction. Erreur de traduction inconsciente ou consciente, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est une erreur de traduction. Et alors, vous avez ces statues qu'on voit dans certaines églises où Marie est couronnée, n'est-ce pas, écrase la tête du serpent. Bon. Autre erreur du même ordre, toujours sur une traduction erronée, c'est la traduction, n'est-ce pas, de la salutation de l'ange à Marie dans le début de l'évangile de Luc. Hein, « Je te salue, Marie ». Le grec dit « qui est l'objet d'une grâce ». Bon. Jérôme traduit là aussi « plena gratia », « pleine de grâce ». Donc, les théologiens catholiques, à partir de cette traduction fausse, eh bien, spéculent, interprètent d'une manière erronée, font une mauvaise herméneutique. Et disent « si Marie est pleine de grâce, c'est donc qu'elle est distributrice des grâces ». Et par conséquent, nous pouvons aller vers Marie pour recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin, puisqu'elle est pleine de grâces. Vous voyez, l'interprétation, l'herméneutique erronée, qui vient justement d'une traduction qui elle-même est erronée. Alors, c'est pourquoi quand nous faisons de l'herméneutique, il nous faut être extrêmement prudent. On n'est jamais trop prudent. Et il nous faut toujours cerner le texte. Être sûr que nous avons bien compris le texte, parce que si nous n'avons pas compris le texte, comme l'avait fait Jérôme, par exemple, sur le Gratia Plena, eh bien, nous pouvons dérailler complètement. Et certains déraillements peuvent avoir des conséquences terribles. Quand on sait que la mariologie s'est développée avec toutes ces aberrations, toutes ces outrances, à partir de ces deux textes que j'ai cités, n'est-ce pas ? La femme écrasera la tête du serpent et Marie est pleine de grâce. Donc, deux traductions erronées qui, a priori, semblent ne pas porter à conséquence, mais en fait, on voit que ça porte à conséquence. Ouais. Alors, il nous faut être très prudent à ce niveau-là. Maintenant, pour nuancer un petit peu ce que je dis, il ne faut tout de même pas oublier que ce vieux livre difficile, livre oriental, livre écrit dans des langues qui nous sont souvent inaccessibles, n'est-ce pas ? Eh bien, est le livre qui a été le plus étudié dans le monde. Que de nombreux exégètes, pendant les 2000 ans d'histoire de l'Église, se sont attachés à cerner justement ce texte au plus près. Et que précisément, nous avons à notre disposition des instruments qui nous permettent, non pas de refaire l'histoire, mais précisément de remonter à la compréhension du texte, même s'il y a encore des choses à découvrir, c'est vrai. J'évoquais tout à l'heure, par exemple, ce qui concerne l'interprétation des épîtres aux Romains. Bon, ben ça, il y a peu qui ont vu. Mais il y en a quelques-uns, quand même. Hein? Alors, voyez-vous, ce que je veux montrer ici, c'est qu'on ne refait pas le monde. Et nous avons à essayer de voir et de réaliser quand nous avons des problèmes de compréhension de la Bible, eh bien, remonter à des gens qui l'ont étudié. Non pas pour recevoir servilement ce qu'ils ont dit, certains ont déraillé, mais que cela soit une aide. Que ceux qui ont commenté la Bible, la parole de Dieu, eh bien, soient une aide pour nous pour essayer de nous forger une opinion. Étant bien entendu que nous avons notre liberté de jugement. Et, par exemple, il est tout à fait légitime de dire, eh bien, l'interprétation d'un tel, je la rejette, manifestement, là, il est à côté. Par contre, ici, l'interprétation d'un tel, eh bien, elle me semble intéressante, elle approche de la vérité, me semble-t-il. Alors, voyez-vous, petit à petit, en comparant comme ça les commentateurs, nous pouvons, dans les textes difficiles, eh bien, arriver à des conclusions, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'à côté de cela, nous avons besoin toujours d'une foule de commentaires. La Bible s'interprète par la Bible, on l'a souvent dit. Et c'est vrai, il y a des textes qui sont suffisamment clairs pour qu'un enfant puisse les comprendre. Mais il est vrai aussi qu'il y a des textes difficiles. Et surtout, quand nous voulons faire des doctrines, la doctrine profonde, eh bien, nous ne pouvons pas faire l'abstraction de tous ceux qui ont étudié la Bible. Par exemple, sur les problèmes de christologie sur lesquels nous sommes penchés en son temps, dogme de la Trinité, de toutes ces choses-là, eh bien, nous avons dit en son temps, n'est-ce pas, que à chaque génération, quand on veut ignorer justement les travaux de ceux qui se sont penchés sur ces problèmes-là, on refait les mêmes erreurs. J'ai parlé en son temps des problèmes qui étaient nés dans le mouvement de Pentecôte naissant au Canada, aux États-Unis, au sujet justement de la christologie, et comment on était tombé finalement dans une grande partie, n'est-ce pas, de l'Église pentecôtiste, dans l'hérésie sabellianiste, unitarienne, n'est-ce pas, qui prétendait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient trois états différents de la divinité, comme le solide, la glace, le liquide et la vapeur sont trois états de l'eau, n'est-ce pas. Bon, ça c'est une hérésie des premiers siècles qui est bien connue, hein, qui avait pour promoteur un certain Sabellius, d'où le nom de sabellianisme qu'on lui a donné. Eh bien, il est bien évident que si les premiers pentecôtistes n'avaient pas eu le mépris qu'ils avaient justement pour les travaux des pères de l'Église et pour les travaux des premiers conciles, en particulier concile de Nicée et Constantinople, eh bien, ils auraient évité ce genre d'erreur. Ils auraient évité les déchirements qui ont secoué les églises pentecôtistes et puis qui ont bloqué le réveil en Amérique du Nord, en particulier la progression du réveil à partir du moment où ça a éclaté. On ne refait pas le monde. C'est évident. Il y a des choses qui sont acquises, et il est certain que, par exemple, la christologie, eh bien, les grands conciles œcuméniques du 4e et du 5e siècle l'a élaboré une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à ajouter. Et les témoins de Jéhovah, tout ce qu'on peut faire, si vous voulez, comme erreur en christologie, toutes ces erreurs-là, toutes ces hérésies-là, elles ont été faites dans les premiers siècles. Toutes. On retombe toujours dans les mêmes, ce soit dans le sabellianisme pour ce qu'on appelle la doctrine de Jésus seul, que ce soit dans l'arianisme pour ce qui est des témoins de Jéhovah, que ce soit dans les problèmes sur les natures du Christ, si on veut plonger encore un petit peu plus loin dans les conciles d'Éphèse et de Chalcédoine. Mais de toute façon, n'est-ce pas, on refait toujours les mêmes erreurs. Alors soyons un peu sages. Des frères qui nous ont devancés ont travaillé sur ces questions-là très sérieusement. Ils ont élaboré des choses, des formules, n'est-ce pas, qui manifestement sont équilibrées, sont balancées, rendent compte avec bonheur des Écritures. Eh bien, adoptons ce qu'ils ont fait. Hein? Alors, dans les milieux pentecôtistes ou évangéliques, où on rejette évidemment les formulations des conciles œcuméniques, on fait des déclarations de foi. Je prends par exemple les 12 points des assemblées de Dieu. Eh bien, les 12 points des assemblées de Dieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous voulez, c'est un remake de Nicée-Constantinople, en moins bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En moins élaboré, c'est moins pensé, manifestement. Et pardonnez-moi, mais entre les 12 points des assemblées de Dieu et le symbole de Nicée, moi je préfère le symbole de Nicée. Il est plus complet, il est plus balancé, il est plus exact. Alors, sans se rendre compte, n'est-ce pas, ces gens-là redisent en moins bien ce que les pères de l'Église, ce que les premiers conciles ont dit. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage d'être obligé de refaire le monde à chaque génération. Alors soyons un peu sages. Et puis, ne négligeons pas le travail de ceux qui nous ont précédés. Maintenant, ça ne veut pas dire que ces paroles d'évangile, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas prendre du champ, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas dire, comme je viens de le faire il y a un instant, Luther a découvert quelque chose de fondamental, mais ce n'était pas la préoccupation de Paul dans l'Épître aux Romains, même si la doctrine que Luther y a découverte était une doctrine qui s'y trouvait, que Paul professait, c'est vrai. Mais ce n'était pas sa préoccupation. Alors on ne peut nuancer. Mais il y a des choses qui sont dites une fois pour toutes. La christologie a été fixée par les grands conciles. La sotériologie, c'est-à-dire tout ce qui concerne le salut, a été fixé à la réforme. Puis ensuite, par Arminius, par Wesley, par d'autres. Bon, là aussi, tout a été dit. On ne va pas refaire le monde dans ce domaine-là. Bon, les doctrines du Saint-Esprit, elles sont quand même relativement maintenant bien élaborées. Ce qui concerne le baptême dans le Saint-Esprit, les dons spirituels, eh bien, il y a des choses maintenant qui sont dites, qui sont claires. Et constamment, vous avez toujours, dans les mouvements charismatiques, ces questions reviennent. On veut ignorer. On veut ignorer le travail de Donald G. On veut ignorer ce qui a été élaboré par les premiers pentecôtistes. Et constamment reviennent cette question du signe initial, cette question du parler en langue. Mais ça a été dit une fois pour toutes. Pourquoi y revenir? Pourquoi y revenir? Parce qu'on veut être original à tout prix, parce qu'on veut pouvoir se... Mais non, nous avons dit, l'Écriture se lit en Église. Et en Église, ce n'est pas simplement l'Église contemporaine, mais c'est l'Église de tous les temps. L'Église de tous les temps aussi a des choses à nous dire. L'Église de tous les temps n'était pas quand même entièrement dans l'erreur. Il y a eu quand même des hommes de Dieu qui ont dit des choses valables. Et qui ont dit des choses valables pour aujourd'hui. Et beaucoup plus valables que tout ce que nous pourrions dire nous. Alors, ça c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Deuxième aide, outre justement les commentaires de ceux qui nous ont précédés, ce sont les découvertes archéologiques. Depuis plus d'un siècle maintenant, on a des découvertes archéologiques qui font que l'environnement biblique nous est infiniment mieux connu. Il y a une désoccidentalisation, n'est-ce pas, de la foi par justement la redécouverte de ce que Ernest Renan appelait le cinquième évangile, c'est-à-dire les terres bibliques. Les pays bibliques. Et il est certain que les découvertes qui ont été effectuées là-bas nous permettent de mieux comprendre comment on vivait à l'époque de Jésus, comment on vivait à l'époque de l'Ancien Testament, les coutumes, les modes de pensée, la littérature, la poésie de cette période-là, et de mieux comprendre des textes bibliques qui autrement nous étaient obscurs. Je pense aux découvertes de Qumran, découvert des manuscrits de la mer morte, qui ont redonné une actualité incroyable à la Bible. Alors, nous avons des aides. Nous ne sommes pas seuls dans notre recherche de la compréhension de la parole de Dieu. Et puis, troisième point, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus disait dans Jean 16, verset 13, parlant du Saint-Esprit qu'il allait donner à ses apôtres, « Il vous conduira dans toute la vérité ». Si nous n'avions que les aides humaines, quelque importantes qu'elles soient, aides que j'ai données, commentaires ou archéologie, nous serions encore très limités. Mais nous avons une aide surnaturelle qui est la direction du Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Et c'était le grand trait de génie des réformateurs, n'est-ce pas, de réinsister sur cette direction du Saint-Esprit en disant « Le Saint-Esprit qui a révélé la Bible aux auteurs sacrés peut nous ouvrir l'esprit pour que nous comprenions les Écritures. » Comme je disais tout à l'heure, c'est pas, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures, nous est-il dit de Jésus quand il aborde les disciples qui allaient à Emmaüs, n'est-ce pas? Alors bien entendu, ça il faut nuancer aussi, bien sûr, parce que justement dans un certain subjectivisme évangélique, pense que précisément, grâce à cette promesse, n'est-ce pas, eh bien, chacun peut interpréter la Bible à sa guise, en faisant fi justement des règles de l'herméneutique, en faisant fi des découvertes archéologiques, en faisant fi des commentaires qui nous ont précédés, n'est-ce pas ? Alors là, évidemment, il faut prendre tout cet ensemble. C'est tout cet ensemble. La Bible est à la fois une œuvre humaine et divine, ou divine et humaine, je ne sais pas dans quel sens il faut le mettre. C'est d'abord un livre comme tous les livres, écrit avec de l'encre sur du papier. C'est un livre qui est écrit dans une langue, dans des langues qui obéissent à des règles de syntaxe, de grammaire, comme n'importe quelle autre langue. Qui par conséquent sont productrices d'un sens qu'il nous faut essayer de cerner comme nous cernerions le sens du journal du matin ou bien de quelques poètes, Victor Hugo ou autres, n'est-ce pas ? Ça obéit aux mêmes règles, si vous voulez, au départ. Et puis ensuite, c'est un livre surnaturel, c'est-à-dire inspiré par Dieu. Et là, il nous faut une autre dimension. Il nous faut justement la direction du Saint-Esprit. Et là, nous voyons justement que l'herméneutique, avant d'être une science, est une disposition d'esprit. La bonne herméneutique dépend d'abord de l'homme qui s'approche du livre saint. Dépend d'abord de son état d'esprit. C'est ça la chose importante. Il n'est pas question d'arriver devant la Bible bardé de principes scientifiques, d'exégèse ou d'interprétation. Mais il s'agit d'arriver avec un état d'esprit qui est le bon. L'Écriture, en effet, je le disais il y a un instant, est humaine et divine. Mais la bonne approche de la Bible est d'abord une approche spirituelle. Et c'est en cela que la Bible est un livre unique. Et le premier désir qui doit animer le lecteur de la Bible, c'est celui de connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a de nombreux textes dans la Bible elle-même qui insistent sur cette disposition d'esprit-là. Paul nous dira dans la première aux Corinthiens que l'homme naturel, l'homme charnel, l'homme psychique, traduit-on parfois d'une expression qui n'est pas très heureuse, c'est pas, ou l'homme animal, c'est encore pire. Hein, l'homme, disons, naturel, hein, l'homme charnel, ne comprend pas les choses de Dieu. Il ne peut pas. C'est une folie pour lui. C'est spirituellement qu'on en juge. Et il faut que les choses spirituelles soient jugées spirituellement. Et c'est pourquoi quand nous faisons appel à des commentaires, nous aurons l'occasion de revenir sur des commentaires dans la suite de cette étude, nous devons trier soigneusement les commentaires. Qui est le commentateur ? Il ne suffit pas que ce commentateur soit licencié en théologie, en exégèse, en langue ancienne, ou que sais-je encore, soit bardé de diplômes. Mais quel genre d'homme est-il ? Est-il un croyant ? Est-il un homme qui s'approche du livre, malgré la science qui est la sienne, avec un cœur d'enfant ? Ou bien est-il un homme qui s'en approche avec suffisance ? Avec orgueil et finalement avec des a priori humains. Je lisais aujourd'hui dans notre étude sur le Sinaï, n'est-ce pas, une étude fort intéressante, n'est-ce pas, sur la sortie d'Égypte, la localisation du mont Sinaï. Bon, le commentateur pensait que c'était à peu près l'endroit où nous sommes allés, mais il sortait un problème. Il dit, comment se fait-il ? Comment dans cet endroit aride, c'est vrai, j'ai pu voir moi-même, c'était complètement désolé, comment dans cet endroit désolé, 2 500 000 personnes ont pu vivre pendant 40 ans ? C'est impossible, disait-il. C'est impossible. Manque de nourriture, manque d'eau. C'est vrai ? Alors il réduisait les nombres, il dit, la Bible s'est trompée quant au nombre. Ce n'était pas possible qu'il y ait 2 500 000 personnes, et lui réduisait ça à peu près à 5 000 personnes, vous voyez. Il a dit oui, 5 000 personnes peuvent vivre dans le désert du Sinaï pendant 40 ans. Pourquoi ? Pour une bonne et simple raison, c'est parce que cet homme excluait a priori la possibilité du miracle. Or, la Bible est claire, 2 500 000 personnes ont vécu pendant 40 ans dans le mont Sinaï par le miracle quotidien renouvelé de la manne, et puis de l'eau qui surgissait miraculeusement quand c'était nécessaire. Mais comme ce commentateur excluait a priori toute possibilité de miracle, eh bien, il se trouvait devant un problème. Pourquoi ? Parce qu'il jugeait humainement. Les choses de Dieu sont folies pour lui. C'est ce que Paul dit. L'homme naturel, l'homme charnel ne reçoit pas les choses de Dieu. Elles sont folies pour lui. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, il y a des commentateurs qui peuvent être complètement à côté de la plaque, tout simplement, justement, parce qu'ils ne sont pas des hommes spirituels. Et il nous faut prendre garde, quand nous faisons appel à des commentaires, d'avoir des commentaires qui sont écrits par des hommes spirituels. 1 Corinthiens 2, verset 14. Autre texte fondamental aussi, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas véritablement né de nouveau, il y a toute une dimension de la vérité de Dieu qui lui échappe. Il ne peut pas la voir. Il est aveugle, complètement aveugle par rapport à cette réalité, à ces réalités-là. Et nous pouvons avoir des commentaires fort savants écrits par des gens qui peuvent avoir des titres, qui peuvent être évêques, qui peuvent être archevêques, qui peuvent être cardinaux, qui peuvent être théologiens, etc. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et ça se sent tout de suite. On se rend compte tout de suite qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas les choses du royaume de Dieu. Et ce brave commentateur auquel je faisais allusion il y a un instant, sur le Sinaï, manifestement, était quelqu'un qui était né nouveau. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 12. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour connaître les choses de Dieu. Ah, ça c'est un texte fondamental. Il faut avoir reçu l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. C'est ce qu'avait compris Luther. N'est-ce pas ? Et sans cela, l'homme, livré à ses propres pensées, eh bien, va traiter la Bible comme un autre livre. Il va la disséquer. La tronquer, y trouver des contradictions, des invraisemblances, parce que il lui manque l'éclairage de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui l'éclaire. L'Esprit de Dieu qui en met en évidence l'harmonie. L'Esprit de Dieu qui ne nous donne pas toujours la clé par rapport à toutes les difficultés, mais qui nous permet de passer au-delà des difficultés et de dire, si difficulté il y a, eh bien, elle n'est pas un problème fondamental pour moi, cette difficulté-là, parce que le Seigneur sait. Le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible, et il en est aussi l'interprétateur. Il en est l'interprète, il en est aussi celui qui nous permet de la comprendre. Autre texte, 1 Corinthiens 2, verset 10. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et c'est pourquoi la tradition orthodoxe dit que les plus grands théologiens, c'était ceux qui priaient le plus. Les plus grands théologiens étaient des hommes de prière. L'étude de la Bible n'est pas simplement une activité de recherche intellectuelle pure. L'étude de la Bible est certes une activité intellectuelle, mais qui va de pair avec une grande sensibilité à l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un point fondamental. Et puis enfin, je dirais une dernière condition. L'interprète de la Bible doit être un homme intellectuellement honnête. Et l'honnêteté intellectuelle, qui est l'honnêteté tout court, en fin de compte, l'honnêteté tout court qui doit être celle de l'homme de Dieu, du chrétien, de tout chrétien, eh bien, nous amène, encore une fois, à nous soumettre humblement au texte et non pas à essayer de lui faire violence pour justifier nos théories, pour justifier nos doctrines ou pour justifier nos pensées. Et je reviens à ce que je disais en commençant, n'est-ce pas ? Quand on part avec des idées préconçues, a priori, comme la papauté, comme des choses comme cela, et puis ensuite on essaie absolument de piquer un texte ici ou là, n'est-ce pas, pour lui faire dire ce qu'on a envie de dire, pour justifier notre pratique anti-biblique. Hein ? Et combien de pratiques anti-bibliques sont justifiées justement par des textes comme ça qu'on a pris de droite et de gauche, et que, comme disait un homme de Dieu, n'est-ce pas, sont assemblés au scotch tape, n'est-ce pas ? On prend des textes à droite et à gauche et puis on les coupe, on découpe, n'est-ce pas ? On peut faire dire ce qu'on veut à la Bible en faisant par ce procédé-là. Hein. On peut découper un texte par-ci, on peut découper un texte par-là, et puis voilà, hein, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Mais ça, ce n'est pas intellectuellement honnête. L'honnêteté intellectuelle nous oblige à dire, eh bien, là, je me suis trompé. Je remets en question ma pensée, voire éventuellement la doctrine de mon Église. Que voulez-vous ? Un catholique qui lit l'Écriture sur Marie, s'il est intellectuellement honnête, ou un catholique qui lit le texte sur les statues, hein, dans l'Exode 19, tu ne feras pas d'image, de statue, tu pourras te prosterner devant elle et les adorer. Ben, s'il est intellectuellement honnête, il remet en question la doctrine de son Église. C'est tellement vrai que l'Église catholique, justement, bien consciente de cette incongruité de sa propre doctrine, a traficoté ce texte-là. Et les 10 commandements, eh bien, sont de telle manière qu'on a supprimé ce deuxième-là. Et la première parole est divisée en 2 paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et puis après, on saute les statues dans la version catholique. C'est intellectuellement malhonnête, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est intellectuellement malhonnête. Alors, l'humilité véritable de l'homme de Dieu, eh bien, c'est de dire, là, je me suis trompé. Mais vous avez pu avoir la même chose en milieu évangélique. Ma femme est en train de lire un livre qui a été écrit par un théologien évangélique avec lequel j'ai rompu quelques lances, pour ne pas le nommer Alfred Kuhn, n'est-ce pas, qui vient d'écrire un livre sur la femme dans la Bible. Eh bien, M. Kuhn veut à tout prix prouver que la femme a le droit d'enseigner, de prêcher, que la femme n'a pas à se couvrir la tête, que la femme peut se couper les cheveux, que la femme peut porter le pantalon, la mode unisexe est une chose très bien, n'est-ce pas ? Bon, il veut prouver tout ça. Il le veut. Il a du mal. Vous comprenez bien, il a du mal. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, ce monsieur va jusqu'à dire que le texte où il est dit que Paul n'autorise pas la femme à enseigner et à prendre autorité sur l'homme, ah, ça c'est une extrapolation d'un copiste du Moyen-Âge, un moine qui a introduit ça parce qu'au Moyen-Âge on était misogyne, on était contre la femme, et par conséquent on a introduit ça dans le texte. Mais les textes originaux, et c'est pas Paul qui a dit ça. Bon, sur la coiffure de la femme, les cheveux longs et toutes ces choses-là, il dit, oui, ça c'est quand même de Paul, bien sûr, mais c'était les coutumes de l'époque, et aujourd'hui on a d'autres coutumes, et ce serait aujourd'hui. Si Paul était aujourd'hui, il n'écrirait pas les mêmes choses. Ben, vous vous rendez compte ? La malhonnêteté intellectuelle. Qui est-il pour dire que Paul n'écrirait pas les mêmes choses ? Qui est-il pour en juger ? Et sa conclusion, c'est celle-ci, eh bien, la femme qui se couvre la tête aujourd'hui dans les assemblées, eh bien, est un scandale devant Dieu. Mais vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Tordre le sens des Écritures, voilà l'exemple d'une mauvaise herméneutique. Pourquoi ? Parce qu'on manque de probité intellectuelle, d'honnêteté intellectuelle. Alors que l'honnêteté intellectuelle consiste à dire, le texte, il est là, à cause des anges, à cause de la nature de l'homme et de la femme, à cause des relations, n'est-ce pas, entre Dieu, Christ, l'homme, la femme, qui sont des choses éternelles. Automatiquement, aussi longtemps que le ciel et la terre demeurent ce qu'ils sont, c'est ainsi. Donc, automatiquement, c'est des choses qui sont valables pour aujourd'hui. Ça, c'est tout ce que quelqu'un qui va être intellectuellement honnête va conclure. Parce que c'est ce que le texte dit, tout simplement. Alors, voyez-vous, les problèmes de l'herméneutique, c'est d'abord le problème de l'homme. C'est le problème de celui qui s'approche du texte sacré. Il doit le faire, encore une fois, dans une dimension spirituelle, après être né nouveau, avec la dimension de l'Esprit de Dieu et avec l'honnêteté intellectuelle qui va l'amener à se soumettre humblement à ce qui est écrit et ne pas chercher à trouver dans l'Écriture ce qu'il a envie d'y trouver. Alors, on pourrait voir l'envers du décor et dire quelle est donc la mauvaise approche du livre. Pourquoi y a-t-il tant d'interprétations différentes sur les mêmes textes? Et ça, c'est la grande pierre d'achoppement pour les incroyants d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, il y a tellement d'interprétations de la Bible différentes, c'est vrai. Et pourquoi? Premièrement, à cause des priori intellectuels. Et nous allons revenir à Luther. Luther était tellement imbu de sa doctrine, la justification par la foi, qui était juste, qui était vraie, mais il l'a absolutisée. Et alors il rejetait l'épître de Jacques comme étant une épître non inspirée, parce que Jacques dit, vous savez, il insiste sur les œuvres. Et il dit, Abraham n'a pas seulement été justifié par la foi, il a été aussi justifié par les œuvres. Alors ça faisait bondir Luther. Et Luther, dans la foule qui était la sienne, disait, l'épître de Jacques, c'est l'épître de paille. Il l'appelait l'épître de paille. Il l'a rayé du canon. Elle y est. On ne peut pas la supprimer. Ce n'est pas parce que Luther déclare qu'elle est l'épître de paille qu'automatiquement, c'est ainsi. Non. Il faut comprendre. Est-ce que Jacques contredit Paul? Mais bien sûr que non. Ils sont frères. Mais il veut justement contrebalancer une interprétation erronée, qui était celle de Luther d'ailleurs, en centrant tout sur la justification par la foi, de dire, alors, puisque je suis justifié par la foi, je peux faire ce que je veux, je peux vivre comme le dernier des païens, je peux pécher comme je veux. D'ailleurs, c'était une des formules de Luther. Pêche courageusement et crois encore plus courageusement. Bon, vous voyez où ça peut mener, une doctrine comme celle-là. Alors Jacques dit, attention, c'est vrai, justifié par la foi, oui, mais jusqu'à un certain point. Et si vous êtes véritablement justifié par la foi, vous allez produire des œuvres qui seront dignes de la justice. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains. Rien d'autre. Justifié par la foi, nous allons produire des œuvres dignes de la repentance. Alors, c'est tout simplement ça que Jacques veut dire. Il ne contredit pas Paul. Et il faut avoir une vue balancée des choses, voyez-vous. C'est ce que disait Donald G. La vérité n'est pas dans les extrêmes. La vérité est toujours dans l'équilibre. Comme quelqu'un qui avance sur un fil, un funambule, il a un balancier comme ça. Et quand il penche un peu d'un côté, toc, il compense avec le balancier. Et c'est ça. C'est ça la marche dans la vérité. C'est toujours la marche sur un fil étroit comme ça. Et c'est pourquoi ce n'est pas quelque chose de facile. Pourquoi y a-t-il d'autant d'interprétations différentes aussi, je disais tout à l'heure, à cause de l'environnement culturel différent? Bon, je n'y reviens pas. J'ai longuement exposer ce point. Troisièmement, il y a aussi des dispositions psychologiques mauvaises. Vous savez, il ne faut pas croire que les commentateurs ou les exégètes ou les théologiens sont des gens qui sont dépourvus de tout sentiment charnel. C'est souvent, hélas, le contraire. Et quand on écrit des thèses savantes, c'est souvent en vue d'obtenir des doctorats ou des choses semblables. Ça, faut pas l'oublier. Et pour avoir un doctorat, pour être célèbre, pour qu'on vous reprenne, vous m'avez compris, faut être un peu original. Alors, il y en a qui font de l'originalité à tout prix. Comme disaient certains acteurs de cinéma, peu importe qu'on parle de nous en bien et en mal, ce qui est important, c'est qu'on parle de nous. Ah, vous avez des gens qui vont sortir des théories complètement biscornues, simplement parce que c'est révolutionnaire, parce que ça remet en cause les idées reçues, puis ce sera contredit par un autre après, mais peu importe, on aura parlé de soi. Alors, vous avez des gens qui vont vous dire que la Bible est bourrée de mythes, les miracles de Jésus n'ont jamais eu lieu. Le but, souvent, n'est que tout simplement de qu'on parle de soi. C'est ça. Vous savez, il faut être extrêmement réaliste et pas naïf. Et se rendre compte que souvent, sous des grandes théories fumeuses, il y a des sentiments très charnels et très humains, et des désirs de gloire, de célébrité, qui sont extrêmement loin d'être spirituels. Seulement, Après, ça fait du mal. Ça reste. Darwin, par exemple, c'était ça. Darwin n'était pas du tout sûr de son fait. Mais il avait trouvé une théorie originale qui allait faire parler de lui, ou pour parler de lui. On a parlé de lui, on en parle encore jusque maintenant, d'ailleurs. Seulement, on ignore que, sur son lit de mort, Darwin s'est rétracté. Darwin a dit qu'il s'était complètement trompé. Seulement, ça, on a oublié, bien entendu, parce que la théorie de Darwin, eh bien, arrangeait bien un certain nombre de gens qui n'avaient pas du tout envie de se reconnaître comme créatures de Dieu. Donc, ils n'avaient pas envie de rendre des comptes à Dieu. Alors, ils préféraient être le produit de l'évolution, parce qu'on n'a pas de compte à rendre à l'évolution, vous comprenez. Alors, il y a des choses comme ça. Pourquoi un certain nombre de théologiens catholiques comme Thomas d'Aquin ou autres, n'est-ce pas, ont élaboré un certain nombre de théories sur l'infaillibilité de l'Église ou des choses comme ça? Là aussi, il y avait des raisons très très pragmatiques, très très humaines, très très charnelles. Parce que les papes avaient envie, n'est-ce pas, d'avoir un pouvoir temporel, d'avoir un pouvoir politique, c'est tout. Par exemple, en 451, comme nous rappelait un évêque arménien, quand nous étions à Jérusalem ces jours derniers, a eu lieu un concile, n'est-ce pas, qui a discuté de l'articulation des deux natures de Christ. Comment s'articule dans la personnalité de Christ la personnalité humaine et la personnalité divine de Jésus ? Vous avouerez que le problème est quand même très subtil. Hein. Et je dirais, ce problème-là, eh bien, qui peut le savoir si ce n'est le Seigneur lui-même ? Comment s'articulent les deux volontés de Christ, la volonté humaine, la volonté divine ? On ne pourra jamais le savoir. Eh bien, il y a un concile qui s'est penché sur cette question-là et qui a élaboré une certaine théorie. Et tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec ça ont été excommuniés, persécutés. Et l'évêque arménien nous disait, bien, l'Église arménienne n'a pas participé à ce concile parce que nous estimions que c'était un concile vain, que tout avait été dit sur la christologie, qu'il n'y avait rien à ajouter, ce qui était très juste et très vrai. Et puis, disait-il, derrière ça, il y a des raisons politiques. C'est qu'on voulait élever Byzance au deuxième rang après Rome et puis faire descendre les autres patriarcats. Et alors, sous des dehors très spirituels, à savoir discuter de l'articulation des deux natures de Christ, en fait, les raisons cachées étaient bien beaucoup, beaucoup plus charnelles. C'était de faire descendre les patriarcats d'Antioche et d'Alexandrie pour faire monter Byzance au deuxième rang. Alors, vous comprenez que, arrivé à ça, seulement après ça, ça fait du mal. Parce que ceux qui ont refusé ce concile-là, eh bien, ont été persécutés. Ont été persécutés par Byzance. Que des millions et des millions de morts, ou du moins des centaines de milliers de morts qui ont résulté justement de ces choses-là. Et puis ensuite, ça a tellement affaibli et divisé l'Église que quand les musulmans sont venus quelques siècles plus tard, eh bien, ils n'ont eu qu'à croquer les plaideurs, comme dans la fable de La Fontaine, pour les mettre d'accord et puis manger tout le monde. Alors voyez-vous, il y a quelquefois des choses comme ça qui font du tort, un tort considérable. Alors, il y a aussi des gens qui sont obtus, qui ne voient pas l'évidence. Ça, c'est vrai, on en rencontre aussi. Des gens qui, absolument bornés, têtus, obstinés, et puis qui s'accrochent mordicus à des bizarreries qui sont les leurs, qui refusent d'être repris dans ces choses-là. Certains ont peur du changement. Il y a des écoles théologiques qui remontent à très loin, n'est-ce pas ? Alors qu'ils sont sanctifiés par le temps, si j'ose dire, et qu'on ne remettra pas en question, même si c'est en contradiction avec l'Écriture. Quand on sait ce qui s'était passé pour les pharisiens, et Jésus leur disait, bien, vous adulez la parole de Dieu par votre tradition, ça aussi. La tradition tue l'Écriture. Et c'est pourquoi il nous faut prendre garde de ne pas être liés par un système théologique. Il y a des systèmes théologiques qui nous emprisonnent. Par exemple, en milieu évangélique, il y a ce qu'on appelle le dispensationalisme, qui est un de ces systèmes-là. Et alors, qui, par exemple, se reflète dans des ouvrages comme la Bible Scofield, par exemple. qui a de bons aspects par ailleurs. L'abus scophile n'est pas hérétique, loin s'en faut. Mais elle a une interprétation dispensationaliste qui enferme la pensée dans un carcan. Et qui n'est pas toujours juste. Alors, que nous connaissions certains systèmes théologiques, que nous nous y référions, est juste et normal. Mais nous n'en sommes pas prisonniers. Et lorsque ce système, dans tel et tel aspect, nous semble se heurter à la parole de Dieu, ne pas être en accord avec la parole de Dieu, nous avons la liberté de le remettre en question sur tel ou tel point. N'est-ce pas ? Alors ça, c'est très important. Et puis enfin, je dirais, il y a aussi des différences parce que parfois, on réagit plus émotionnellement en face de la Bible qu'avec l'intelligence. Par exemple, certains ont adopté la doctrine de l'universalisme, c'est-à-dire que tout le monde est sauvé, converti ou non, pécheur ou saint, Hitler est sauvé, Staline est sauvé, par le sacrifice de Jésus, n'est-ce pas, pour tous les hommes et tout, parce qu'ils ont du mal, sentimentalement, à accepter la doctrine de la perdition éternelle. Ils ont du mal à accepter sentimentalement que des hommes, des femmes, puissent être damnés pour l'éternité. Ça leur semble contraire à l'amour de Dieu, c'est tout. Alors ils rejettent la doctrine de l'enfer, ils rejettent la doctrine de la perdition, et ils adoptent cette doctrine de l'universalisme. Parmi ceux qui régissaient cette manière-là, c'était Jacques Ellul. Jacques Ellul pour lequel j'ai beaucoup de considération, de respect et d'admiration, mais sur ce point-là, j'étais en désaccord avec lui. Et c'est très intéressant, Jacques Ellul n'avait pas d'argument. Et il reconnaissait honnêtement, parce que c'était un homme honnête, que l'Écriture enseignait autre chose. Il reconnaissait honnêtement qu'il y avait des textes sur la perdition qui étaient très forts et il n'excluait pas totalement cette possibilité, parce qu'encore une fois, il était intellectuellement honnête. Mais sentimentalement, il était incapable d'accepter cette idée que certains puissent être perdus. Et simplement, d'une manière subjective, il le reconnaissait, il avait l'honnêteté de le reconnaître, que subjectivement, bien, il préférait croire que tout le monde serait finalement sauvé. Mais il reconnaissait que, bibliquement, il manquait d'arguments. Alors, voyez-vous, bon, lui, il avait cette honnêteté, certains n'ont pas toujours cette honnêteté-là. Alors, voyez-vous, il y a des raisons là qui font qu'on peut se tromper. Et que, par conséquent, l'herméneutique n'est pas quelque chose de facile. Voilà, c'était ce que je voulais dire ce soir. Vous pénétrez de cette idée que l'interprétation biblique est quelque chose d'extrêmement délicat. Mais, n'est-ce pas, que si on a une bonne attitude intérieure, une bonne attitude spirituelle, eh bien, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Ça ne veut pas dire que sur tel et tel détail, nous ne ferons pas d'erreur, mais sur l'essentiel. Sur l'essentiel, le Seigneur nous gardera dans la saine et pure doctrine. Ça, c'est sûr. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?
L'herméneutique, ça s'applique à l'ancien comme au nouveau ?
Oui, l'ancien au nouveau, oui.
Donc, est-ce qu'on peut considérer, je sais que les commentaires des rabbins sont aussi...
Oui. Eh oui, on en parlera des commentaires des rabbins. Eh oui. Là aussi, je crois que c'est un des grands problèmes de l'Occident, de l'herméneutique occidentale, d'avoir négligé les apports des rabbins. Et dans ce processus de désoccidentalisation de la foi, qui était un impératif essentiel de l'herméneutique de ce temps, eh bien justement, il est temps aussi de retrouver l'interprétation des rabbins avec beaucoup de prudence, parce que les rabbins ont dit beaucoup de bêtises, c'est évident. Parce que n'avaient pas non plus cette dimension de la nouvelle naissance, comme on l'a dit il y a un instant. Il n'empêche que, n'est-ce pas, ils ont eu parfois des traits de génie. D'ailleurs, c'est très intéressant de noter que quelqu'un comme Luther, et jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, eh bien, l'herméneutique protestante a souvent fait appel à Rachi. Luther connaissait très bien Rachi, et il a souvent fait appel à Rachi dans son interprétation. Mais il est certain que... Et alors là, l'intérêt de l'exégèse rabbinique, c'est de nous désoccidentaliser, justement. Par exemple, même au niveau des prophéties, des choses comme ça, c'est pas... Il est certain que quand on lit des commentaires de Daniel, ou d'autres prophètes, n'est-ce pas, par des rabbins, eh bien, on sort des schémas traditionnels tels que Darby, le dispensationalisme dont je parlais tout à l'heure. On sort parfois d'une certaine vision simpliste, bien entendu. Quand on fait appel à des commentaires, qu'ils soient d'ailleurs rabbiniques ou autres, il faut le faire avec une grande indépendance d'esprit, et puis donc avoir suffisamment de recul pour dire bah, j'accepte telle chose, j'accepte pas telle autre, quoi, c'est évident. Pas question d'accepter n'importe quoi, n'importe comment, mais quand on agit avec beaucoup de prudence, en restant très fidèle au texte biblique. C'est pourquoi la chose importante, n'est-ce pas, quand on fait appel à des commentaires, ça j'en parlerai, mais alors il faut le faire avec une très très grande prudence, commencer par partir du texte biblique, et pas des commentaires pour aller au texte biblique, mais d'abord du texte biblique pour aller aux commentaires. Et encore une fois, les commentaires, comme j'ai essayé de le montrer ce soir, extrêmement bien choisis, extrêmement triés, et pas n'importe quoi. Parce que si on prend les commentaires des libéraux, comme je disais tout à l'heure, alors là, il ne reste plus rien. Au bout d'un temps, il n'y a plus de foi, il n'y a plus rien. La Bible, il la déchire à belles dents. Comme d'ailleurs l'a dit un commentateur avec un certain humour, quand il parlait du livre de Daniel, vous savez, Daniel dans la fosse lion, il a fait un jeu de mots en disant « Daniel dans la fosse critique ». Oui. Et certain que le recours à des commentaires de ce type-là, dont tu parles, bien David, ne peut être fait que par des gens qui sont formés pour ça, quoi. C'est pas le chrétien de base qui peut s'amuser à aller consulter Rashi ou bien des choses comme ça, quoi. Il y a certains commentaires, très bons commentaires, que le chrétien de base peut utiliser. Par exemple, les commentaires comme les commentaires de Godet ou bien les commentaires comme des dictionnaires de Pache ou des choses comme ça, quoi, ou des encyclopédies, des choses comme ça. Mais c'est certain que je déconseillerais à fond à des gens qui ne sont pas formés, qui n'ont pas l'appel non plus pour ça. C'est une vocation aussi, ça fait partie de c'est un ministère, ça touche le ministère de docteur, de toucher à des commentaires autres. Hein. C'est sûr que c'est trop délicat. Ce qui est important, c'est les grands points de référence, comme je disais tout à l'heure. Les conciles sur la christologie, le travail des réformateurs sur la justification par la foi, le travail des premiers pentecôtistes, El Donaji, sur les choses de l'esprit, etc. Bon, puis après ça, donc, des gens comme Godet, des gens qui ont fait des travaux à leur exégétique très serrés, très sérieux, très, très fidèle à la parole de Dieu avec une foi inébranlable. Alors là, oui, là, c'est bon. Mais ça, c'est les choses de base, quoi. Bon, on va rester là.